Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Directeur général de la FAVO, Madame la Directrice exécutive du PAM, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Président de la République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, aurait bien voulu être personnellement présent à cette cérémonie, comme il s'y était engagé. Mais du fait d'un agenda particulièrement dense, il m'a chargé de le représenter et j'en suis particulièrement honoré. Au nom de la délégation qui m'accompagne, permettez-moi tout d'abord d'exprimer aux autorités italiennes, au directeur général de la FAO et à la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial toute ma gratitude pour de nombreuses marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Rome, cette ville éternelle. Je saisis ensuite cette occasion pour féliciter M. José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, pour sa brillante réélection. Ce nouveau mandat, j'en suis persuadé, sera marqué par plus d'innovation et d'action pragmatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement arrive à son terme, la cérémonie de ce jour arrive à point nommé pour rendre compte des progrès accomplis par les pays pour atteindre l'objectif numéro 1, à savoir éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Il convient de rappeler qu'à l'issue du sommet du millénaire tenu en septembre 2000 à New York, le Gabon, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, s'est approprié la déclaration du millénaire, tout en souscrivant aux engagements découlant des objectifs du millénaire pour le développement. Les deux évaluations menées respectivement en 2003 et en 2006 sur le suivi des progrès des mises en œuvre des OMD ont montré qu'au Gabon, dans de nombreux domaines, des déficits notables subsistaient. À titre d'exemple, 33% des Gabonais vivaient encore sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage était élevé, et ce, malgré une conjoncture économique relativement favorable au cours des années précédentes. Ces tendances enregistrées à mi-parcours de l'objectif 2015 ont révélé la nécessité urgente d'agir pour positionner durablement mon pays, le Gabon, sur la trajectoire de la réalisation des objectifs cibles pour 2015. C'est la raison pour laquelle, à l'issue du sommet de millénaire de septembre 2005, le Gabon a renouvelé son engagement à mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible les OMD dans toutes ces politiques de planification et de programmation. Dans le cadre de cette approche, le gouvernement a procédé au lancement d'un processus d'évaluation des besoins et des chiffrages des coûts pour des investissements nécessaires à l'atteinte des OMD. Il a ainsi élaboré un plan décennal devant servir de cadre opérationnel pour atteindre les cibles des OMD pendant la période 2005-2015. Ce plan comprend notamment la mobilisation des investissements en matière d'adduction d'eau potable, non seulement dans les centres urbains, mais aussi en milieu rural, où un programme d'hydraulique a permis d'apporter une eau sainte aux populations. La vulgarisation des référentiels technico-économiques en matière végétale et en intrants locaux, en collaboration avec les partenaires comme la FAO et l'OFIDA. J'en passe. Un programme de construction de 800 km de nouvelles routes au cours des 5 dernières années, ayant facilité les échanges de production nationale et favorisé l'importation de denrées alimentaires, entraînant une plus grande disponibilité de produits sur le marché. Des mesures fiscalo-douanières destinées à stabiliser les prix des denrées de première nécessité et améliorer l'accès à une alimentation de qualité. En outre, en janvier 2014, le président de la République chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a proposé aux Gabonais un pacte social en vue de renforcer le partage de la prospérité en faveur des couches les plus défavorisées de la population, notamment les Gabonais économiquement faibles. La stratégie d'investissement humain du Gabon, actuellement mise en œuvre porte des germes de progrès en faveur de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement durable après 2015. Elle vise la responsabilisation des populations face à l'aide sociale par l'instauration d'un soutien conditionnel. Elle a pour objectif l'autonomisation des Gabonais économiquement faibles à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus. Une autre initiative, le programme Graines, se traduit par l'aménagement de plusieurs hectares de terres agricoles en faveur des Gabonais constitués en coopératives agricoles. Des facilités pour le logement et l'écoulement de la production leur sont offertes. À terme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui devraient être bénéficiaires de ce programme de développement agricole. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la mise en œuvre de ces politiques a permis au Gabon de réaliser d'excellents progrès. En effet, mon pays fait maintenant partie du groupe des pays qui ont ramené la prévalence de la sous-alimentation de 11,7% à 3,1% entre 1990 et 2014. Pendant la même période, le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 100 000 en 1996 à moins de 45 000 à fin 2014, nous permettant ainsi de réaliser l'objectif du sommet mondial de l'alimentation. Ces résultats encourageants prouvent que mon pays a atteint les objectifs de développement en lien avec l'alimentation. Le Gabon poursuivra ses efforts d'investissement pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement au-delà de 2015, année qui marque l'achèvement du suivi de leur cycle. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le directeur général de la FAO, Madame la directrice exécutive du PAM, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie me donne naturellement l'occasion de remercier la FAO, le PAM et le FIDA pour l'appui technique que ces organisations apportent à mon gouvernement en vue d'assurer la sécurité alimentaire de notre population. Je terminerai mon propos en formulant le vœu que cette coopération gagne en intensité et en volume au cours des prochaines années afin que le Gabon devienne un pays autosuffisant, un pays de faim zéro. Je vous remercie.
格拉切诺总干事、喀金执行干事、各位总统、总理、部长、女士们、先生们、朋友们，今天联合国粮农组织向中国颁发证书，认定中国提前完成世界粮食首脑会议的目标。去年夏天，联合国粮农组织 已经向中国政府颁发了另外一个证书，认定中国提前实现联合国千年发展目标，有关减少饥饿的目标。这两件证书体现了国际社会对中国农业发展成就的充分肯定，在此我代表中国政府对联合国粮农组织表示感谢。 同时，也向在这次活动中获得证书的、受到表彰的其他国家表示祝贺。解决好吃饭问题，是中国人千百年来梦寐以求的目标。中国政府坚持把粮食和农业问题放到经济社会发展的重中之重。这些年来，我们不断地完善 农业政策，调动农民的生产积极性，不断地加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，不断地推进农业科技研发，提高农业的物质和技术的装备水平，农业的生产能力和生产水平不断地得到提高。到去年， 中国的粮食生产已经连续11年增产，总产量连续2年保持在6亿吨以上。棉、油、糖、肉、蛋、奶、果、菜、鱼、 等主要农产品也都实现了稳定的增长。中国农业的发展持续改善了中国的粮食安全状况和人民的营养水平，为中国经济的健康发展奠定了坚实的基础，也为世界粮食安全做出了贡献。我在上午和卡金女士会谈的时候就说到，如果一个13亿人口的大国不能解决自己的粮食问题，本身就是对全球粮食安全的巨大威胁。当然，我们也认识到，中国作为一个拥有13亿人口的大国，要解决好吃饭问题，始终是治国安邦的头等大事。农业仍然是中国经济社会生活中最薄弱的环节。到去年底，中国仍然有7000万的人口处于贫困线以下。今后，我们将一如既往地重视农业，继续把粮食和农业发展作为未来5年经济社会发展的重点领域，增加投入，优化农业的支持政策，下大气力提高粮食和农业的综合生产能力。我们还将进一步推进农业的对外开放，积极发展包括与联合国粮农组织在内的各方面的国际合作，继续向其他发展中国家提供力所能及的农业援助，为促进世界农业发展贡献中国的力量。在经济全球化的今天，农业安全仍然是一个值得高度重视的全球性问题，各方必须同舟共济，携手前行。中国国家主席习近平多次表示，人类是命运的共同体，既要重视自身的安全，也要重视共同的安全。我相信，只要各国休戚与共，合作共赢，以集体之力对抗危机和挑战，才能在人类世界彻底消除饥饿与贫困。让我们团结起来，合作共进，为建设一个没有饥饿的世界而共同努力。谢谢大家。
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب الفخامة أصحاب المعالي والسعادة السيد المدير العام للمنظمة المتحدة للأغذية والزراعة السيدة المديرة العامة المديرة التنفيذية للبرنامج العالمي للأغذية حضرات السيدات والسادة أريد في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى السيد جوزيه غراتسيانو دا سيلفا على إعادة انتخابه على رأس منظمة الفاو. كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على مبادرتها بتنظيم هذه التظاهرة الهامة، كما أثمن التقدم المحرز على درب تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة الفقر والتقليص من عدد السكان الذين يعانون من الجوع. حضرات السيدات والسادة، ينعقد لقاؤنا هذا في ظرف يتميز بتسجيل تحسن نسبي في مؤشرات الحد من الجوع والفقر عبر العالم، وذلك على الرغم من التقلبات والظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. لقد جعلت تونس تحقيق الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها، حيث أولينا القطاع الفلاحي مكانة متميزة في السياسة التنموية ببلادنا. وتندرج في هذا السياق الإصلاحات الرامية إلى مزيد تحسين المحيط العام لهذا القطاع الحيوي وتطوير إنتاجيته وسن جملة من الإجراءات لتحسين الأوضاع العقارية للمستغلات الفلاحية ومراجعة نظام القروض المسندة للفلاحين وحفظ الاستثمار الفلاحي وهيكلة المؤسسات البحثية، كما تم تنفيذ جملة من المشاريع الفلاحية المندمجة والبرامج الخاصة بتنمية المناطق الريفية وتحسين ظروف العيش بها والنهوض بالفلاحة ودعم دور المرأة الريفية في التنمية. وحرصنا كذلك على توفير كل الإمكانيات المتاحة للإفاء بالتزاماتنا وبلوغ أهداف الألفية للتنمية. وفي هذا الإطار قمنا بإعداد التقرير الوطني حول متابعة هذه الأهداف لسنة 2014 في إطار تشاركي يشمل جميع الأطراف المتدخلة في هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني ومشاركة خبراء. وقد أبرز التقرير المذكور تمكن تونس من تحقيق هدفين أساسيين من جملة الأهداف الثمانية للألفية، فقد سجلنا نتائج إيجابية في مجال التقليص من نسبة الفقر حسب المقاييس المعمول بها بالأمم المتحدة إلى النصف، وذلك من 32.4% سنة 2000 إلى 15.5% حالياً. والتقليص إلى النصف كذلك في نسبة السكان غير المزودين بصفة قارة بالماء الصالح للشراب والمرافق الصحية الأساسية. هذا ونعمل على تحسين هذه المؤشرات وتعزيزها بالإضافة إلى تشخيص العراقيل التي حالت دون تحقيق بقية أهداف الألفية للتنمية لوضع البرامج والخطط الملائمة. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إننا مدعونا اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف جهودنا وتنسيق برامجنا من أجل رفع التحديات الاقتصادية والسياسية والمناخية الطارئة، وكذلك معالجة الأوضاع الراهنة واستشراف المستقبل لما فيه خير البشرية جمعا. كما نؤكد على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بمواجهة الأزمات والرفع من مستوى المساعدة الإنمائية لإفادة القطاع الزراعي في البلدان النامية من قبل الدول المانحة والجهات الممولة. وفي الختام نجدد حرص تونس على دعم التعاون والتضامن الدوليين من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها المجموعة الدولية، خاصة منها مكافحة الفقر وتوفير الغذاء الكافي لكل سكان المعمورة. مع الشكر على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Excellencies, heads of state and government, Excellency José Graziano da Silva, Director General of FAO, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate the Director General for his re-election and thank the organizers of this event for the invitation they extended to my government and to my delegation to be here amongst you in this momentous occasion. It is indeed a singular honor to attend and address a forum which earlier has recognized my country's success in addressing hunger, ensuring food security, and achieving the Millennium Development Goals. Ethiopia has come a long way from being the poster child of hunger and food insecurity to become one of the few countries in the world to have turned corners in the fight against hunger and extreme poverty. We have fought hunger tooth and nail and have created a situation where our people's resilience in the face of the vagaries of climate change, induced drought, simply means there is hardly any danger that not even a single individual will die of starvation. This is a far cry from the dreary image of 30 years back, where a million people perished because they could not afford to eat at least a meal a day. That part of our history had proved just that history. And we are now a new chapter of our history, whereby our smallholder family farmers are now hard-pressed not to find a way to live and survive, but on how to make the best out of their lives. Our farmers are far removed from the almost perennial fate of having to stare certain days in the eye every time crops fail. They are instead obsessed with the rather unusual pain in our part of the world anyway of trying to figure out how to quickly to graduate out of this status quo and embrace the world of wealth. True, we still have a long way to go before we can rest on our laurels because we still have many more millions who are still struggling to make ends meet. Even so, one thing is certain. None of my people face such certain days in their village anymore as the case 20-something years ago, having more or less relegated to the specter of famine to the dustbin of history. As the year 2011 did amply demonstrate, even the worst of drought to happen in 60 years could not result in any famine-induced deaths in what are usually famine-prone areas in my country. The reason for this is far from complicated. We have managed, through hard work and dedication of our people and unwavering leadership, to create communities that are resilient to shocks such as drought. We have also managed to ensure in a big scale robustness of our communities in the face of natural calamities. Excellencies, it is in recognition of this success that we are being recognized earlier and today. We are being recognized for jobs done as a country and government that our predecessors did not have the will or the time to do, busy as they had been killing their own people rather than saving them from preventable famine. It is a recognition that we are behaving as normal governments would, responsibly prioritize the safety and well-being of our people. While the satisfaction of our people as a result of our achievements is our ultimate crowning success, this recognition nonetheless is the jewel on the crown. We really thank you from the bottom of our hearts. Addressing this august body, I would be remiss not to say a word or two about why we believe we have achieved whatever has qualified us for this recognition. First, we believe in the people's capacity to make wonders given there is a leadership with a humility to listen, to receive wisdom, and the courage to challenge if it is necessary. As they say, leadership often involves swimming against the current, and swim we did. Second, we had to put in place policies and the strategies that were meant to bring the best out of our people, the financed resource we had at our disposal. The social mobilization structures we devised simply meant our people have all the opportunity to unleash their potential on programs that were meant to change their lives for the better. Third, we make sure our people are the integral part of any decision-making process that the state undertakes. They have the fullest possible participation in the decisions that are going to affect their lives, be they social, economic, or political. Equally important, we have always made sure, and will continue to do so, that the policies and the strategies we put in place and the practices we follow are consistent with the dictates of Mother Nature. No small wonder why our green growth strategy and the smart agricultural practices places higher premium on this unavoidable nexus between man and his environment. We also approached the fight against hunger in a comprehensive, inclusive rural development setting where agriculture, non-farming activities, rural infrastructure, human capability development, and rural marketing infrastructure are taken at a nutshell. Last but not least, the principal support we have all along received from our partners in the fight has also been instrumental in expediting our journey in the fight against hunger. The two sponsors of this event, FAO and WFP, more than other organizations, spring to mind, and we thank you for this unleashing support. In closing, I would like to stress that this recognition today, I believe, is a recognition for what otherwise seemingly helpless victims of famine are capable of achieving if given the opportunity to sort their problems out. In that sense, it is also recognition for the toil of the hardy peasants and family farmers in the hills and the plains of Ethiopia to cast off the shackles of poverty. It is a well-deserved recognition indeed. We will work very hard for zero hunger in our lifetime, as Erthin said just this day, and see a world devoid of hunger. And I thank you for your kind attention.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, first I'd like to congratulate the Director General on his re-election. I want also to congratulate the Food and Agricultural Organization on their tremendous work throughout the world in our quest to reduce poverty and hunger and to move to zero hunger. I want to congratulate to all those who have made the significant milestones of achievement regarding the Millennium Development Goal and the most stringent, ambitious goal of the World Food Summit. St. Vincent and the Grenadines had been recognized of achieving both goals. Indeed, we have gone significantly below halving the number of persons in extreme poverty and who are living under undernourishment. There are, however, immense challenges which continue to bedevil us. First of all, there is the history and the legacy of underdevelopment. When I hear people talk about colonialism, and they talk about it as the good old days, Well, I know from experience that the good old days were bad. Colonialism was in charge of my country for over 200 years. In those 200 years, they built two secondary schools, one for boys and one for girls, one for each 100 years of colonialism. In my first 9 years in office, and I've been around now almost 15 years, I built 10 schools. To achieve a reduction in poverty and undernourishment in the significant terms in which we have done, in the midst of the most excruciating global economic meltdown, a meltdown essentially of monopoly capitalism. I know politicians in the Western world don't want to talk any more about monopoly capitalism and its internal contradictions and the difficulties attendant thereupon. The fact of the matter, we have seen the financialization of capitalism to such an extent, which is disconnected from real production and have brought about chaos since 2008 and continuing. We know that, and we are all silent about it. We should not be. Pope Francis himself is talking about it. If priests and prelates could so comment, why not politicians? So we need a restructuring of the global architecture of financing, because that connects directly to the way we live our lives. We have historical legacies. In the case of the Caribbean and my own country, of native genocide and African slavery, for which there must be reparations. And I make the call here again for reparations for native genocide and African slavery. I am quite sure that those countries which have been responsible for native genocide and which have been responsible for African slavery will see this call not as one of confrontation, but as a conversation to assist us in solving our legacy problems and to put ourselves on a path of sustainable development. And then there is the issue of climate change. Between the year 2010 and 2014, my country has endured 5 adverse weather events. In the aggregate, we have suffered loss and damage in excess of 1/3 of our gross domestic product. We have to rebuild bridges and roads in the farming communities and elsewhere. We have got to rebuild houses. We have had to ensure that those who, as a consequence of natural disasters, moved from a condition of relative safety to poverty, and we had to use the resources which were earmarked for other things to ensure that we do not slip back and we continue on our path towards zero hunger. And then there's the matter of citizen security. We cannot achieve a reduction in poverty and in hunger unless people are safe in their homes. We have to work throughout the world to combat the scourge of drug trafficking and the violence which is generated as a consequence of this particular malady. In short, the complex of developmental issues touch and concern the reduction of poverty and the move towards zero hunger. When my government came to office in 2001, it was estimated that indigence, extreme poverty, was 25.7% of the population. Today is now 2.9%. Undernourishment was 22%. It's now under 5%, just over 3.5%. These are remarkable achievements by a people who have had all the challenges that I've spoken to you about. But we have made sure that we have programs grounded among the ordinary man and woman, the fisher folk, the farmers, the parents and the teachers in their communities and in the schools, to have excellent school feeding programs. We have to learn to do much more with little. And in all of this, we have to run free societies. We have to be democratic. People must have their say. People must vote. People must be able to speak their minds, say things which some governments don't want to hear. In fact, despite all these achievements, I am subjected to daily criticism, and so should it be. But those who have been responsible for a lot of our challenges, a lot of our problems, I ask them from this podium in Rome today, let us strengthen our bonds of friendship, a more global approach to solving our problems and to deepen our regional integration process. I have found, in addition to our international partners who are well known, regional entities which have been quite useful. The Petrocaribe arrangement with Venezuela, the Bolivarian alternative for Latin America and the Caribbean, the Community of States of Latin America and the Caribbean, our own regional integration movement in CARICOM and in the Organization of Eastern Caribbean States. There are many things that we can do with and for ourselves. And I urge all of these things. We must have faith. But faith is made perfect only through deeds, made complete through works. And we must have hope, and above all, we must have love for one another. Thank you, and may God bless us.
Director General, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Bulovinaka, and a very good evening to you all. I'm honored to be here as the head of government to give you Fiji's perspective on the recent progress in fighting hunger globally and at home. Great strides have been made in recent years to recognize and combat the challenge of global hunger. In 1996, at the World Food Summit, 180 leaders pledged to eradicate hunger by agreeing to a global target of reducing the number of those hungry by half by 2015. Fiji, as a small Pacific small island developing state, has not been immune to the challenge of providing the necessary services to support and feed a growing population. Despite this challenge in Fiji, we have achieved that goal of cutting hunger in half, and did so in 2012, 3 years before the deadline, one of only 38 countries to do so. This achievement highlights the will of my government to commit to stronger partnership with organizations such as the FAO. By working together in concert, Fiji not only succeeded, but succeeded ahead of the mark. Your Excellencies, Fiji is committed to maintaining this momentum. Fiji's own experience have given us an improved understanding of the reasons for hunger, food insecurity, and malnutrition, and thus gave us the confidence necessary to step forward and improve. We realized that one of the most important areas of understanding is the creation and maintenance of sustainable agriculture. With the help of the FAO and the United Nations Statistical System Initiative, we were able to conduct an agricultural census and provide us with better agricultural statistics. Improving the collection and analysis of agriculture data was a crucial tool in monitoring our development processes and reaching the global targets, and it continues to be today. Your Excellencies, Fiji recognizes the importance of looking ahead to adjust to our constantly evolving world. My government's policy of leave no Fijian behind has allowed for unprecedented reforms, the likes of which have never been seen before in Fiji's history, providing all Fijians with the best services possible, whether it be access to drinking water, electricity, education, milk, medicine, or telecommunication and legal centers. We also provide free medicine and free water for those earning less. Education is also free for primary and secondary school students. We have subsidized bus fares for school children to get to school. We have a tertiary education loan scheme. We also have a scholarship scheme in selected areas of study, such as agriculture, to assist in expediting socioeconomic development in our country. The most basic goal before us is being free from hunger, a right enshrined in our constitution. And my government is delivering and upholds this right in order for every Fijian to be able to live healthy and productive lives. Indeed, our constitution has a vast area of unprecedented social, economic, and civil and political rights. While Fiji has made great strides in recent years to eradicate hunger, my government won't rest until malnourishment is at zero. Your Excellencies, ladies and gentlemen, there is more work to be done, and we must not stop. Through strategic partnerships, such as our partnership with FAO, all of us can focus on and share our collective experiences to pursue our primary goal, the total eradication of hunger globally. Thank you. Venerable.
Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement et chefs de délégation, Monsieur le Directeur général de la FAO, Madame la Directrice exécutive du PAM, distingués invités, j'aimerais avant tout avant de commencer mon allocution, adresser mes sincères félicitations, ainsi que celles du président de la République, Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, à M. Da Silva, José Graziano, pour sa brillante élection. Monsieur le directeur général, je crois savoir que vous venez d'un grand pays de football. Et là, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Félicitations. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, le président de la République, Issoufou Mahamadou, à qui vous avez bien voulu adresser une invitation, a bien voulu prendre part à cet important événement spécial, mais pour des raisons de calendrier, il n'a pas pu faire le déplacement de Rome. Mesdames et messieurs, il y a 15 ans, et plus précisément le 8 septembre 2000, les dirigeants de 189 pays, dont le Niger, ont adopté sous l'égide de des Nations Unies une résolution dite Déclaration du millénaire. Déclaration qui appelait à des efforts plus accrus en vue de réduire la pauvreté, améliorer la santé, promouvoir la paix et les droits humains et assurer un environnement durable. Le Niger s'est attelé depuis lors à la mise en œuvre de cette résolution. Le rapport 2014 sur mon pays, relativement au progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire, a relevé que des efforts importants ont été consentis, en particulier en ce qui concerne l'atteinte de la cible 3 de l'OMD 1, relatif à la réduction de moitié de la proportion de la population qui souffre de la faim. C'est le lieu de rappeler que la FAO a reconnu que dans ce domaine, le Niger a obtenu des résultats appréciables et en un temps record. Ces résultats positifs qui sont à la base de notre distinction depuis 2013, nous les devons en partie à la mise en œuvre depuis 2003 des stratégies et politiques sectorielles pertinentes, dont entre autres la stratégie de développement rural, le plan de développement sanitaire et la stratégie de sécurité alimentaire. Depuis lors, donc, nous avons mis, Monsieur le Directeur Général, le cap sur l'objectif de la faim zéro. Et depuis 2012, en particulier, nous avons lancé un programme déterminant que nous avons dénommé l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. En d'autres termes, que les Nigériens mangent chaque jour à sa faim. Cette nouvelle approche holistique pour la réalisation progressive de la souveraineté alimentaire est la traduction de l'engagement politique du président de la République, Issoufou Mahamadou, de réaliser ce qu'il a appelé l'alliance de la liberté et du pain. Véritable révolution agricole, l'initiative 3N a pour objectif de permettre aux populations nigériennes d'être à l'abri de la faim en leur garantissant les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Elle est ainsi fondée sur le renforcement de nos capacités en matière de production alimentaire, d'approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes, y compris les changements climatiques auxquels sont soumis, comme vous le savez, les pays du Sahel. Sa mise en œuvre a permis au Niger d'enregistrer des progrès significatifs, et ce, malgré la récurrence de la sécheresse, qui est la cause principale dans nos pays de la famine. L'année dernière, par exemple, le Niger a adopté le plan d'accélération de la mise en œuvre du plan de l'initiative 3N, plan qui s'articule autour de sept axes interreliés et qui concourt à la satisfaction de la demande alimentaire et nutritionnelle sous toutes ses formes sur la base d'une production nationale boostée par les investissements conséquents sur les systèmes de production agro-pastoraux, les activités post-récolte et l'environnement économique et institutionnel. Grâce à cette nouvelle stratégie, nous avons expérimenté l'octroi aux pays, aux producteurs, des kits, c'est-à-dire un ensemble de services de proximité déployés à travers une plateforme intégrée de services appelée la Maison du Paysan. Avec notre dispositif d'anticipation, de gestion de crise et de renforcement de la résilience des populations vulnérables, c'est désormais une réalité au Niger, à savoir la sécheresse n'est plus synonyme de famine. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, plusieurs défis doivent être relevés, et parmi lesquels je citerai l'amélioration de la productivité et de la production dans tous les secteurs, la réalisation d'investissements massifs dans les secteurs prioritaires de l'économie en vue de sa diversification, et notamment les infrastructures et l'énergie, et enfin la promotion des changements structurels dans les secteurs agricoles et nutritionnels. Mesdames et messieurs les partenaires au développement, ces défis sont aussi les vôtres. C'est pourquoi mon gouvernement salue et félicite l'ensemble des pays ayant accompli les performances qui sont célébrées en ce moment solennel. Mon pays sollicite également la poursuite de l'accompagnement de la communauté internationale en vue de sortir durablement du cycle de la faim. La sécurité alimentaire ne saurait être effective sans la paix et la sécurité. Aussi, je m'en voudrais de ne pas évoquer ici un autre défi qui plombe nos efforts de développement. Il s'agit du défi sécuritaire. Et comme vous le savez, mon pays, le Niger, évolue dans un environnement tourmenté par des conflits avec les actions criminelles des groupes terroristes et des forces centrifuges dans trois pays voisins. L'une des conséquences de cette insécurité transfrontalière, c'est l'afflux massif des réfugiés concomitant au déplacement intérieur des populations résidentes privées pour la circonstance de leur potentiel de production, population estimée à plusieurs dizaines de milliers actuellement prises en charge par le gouvernement du Niger et ses partenaires de la communauté d'aide humanitaire. Je voudrais, avant de terminer mon propos, exprimer ma reconnaissance aux partenaires qui nous accompagnent dans nos efforts de recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment la FAO et le PAM, pour leur précieuse contribution. Je saisis aussi l'heureuse occasion de la présente cérémonie pour renouveler mes très vifs remerciements au gouvernement italien, à Monsieur le directeur général de la FAO et à Madame la directrice exécutive du PAM pour la qualité de l'accueil et la parfaite organisation de notre rencontre d'aujourd'hui. Mon vœu le plus cher, Monsieur le directeur général, c'est que d'ici la fin de votre mandat, nous puissions revenir dans cette salle pour célébrer la fin de la fin, à savoir la fin zéro. Je vous remercie.
Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Excellence, Madame et Messieurs les membres, Monsieur le chef du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, honorables invités. C'est pour moi un honneur et un privilège de m'adresser à vous au nom d'abord de mon pays, et de son Excellence Monsieur Marguelé, Président de la République, qui n'a pas pu faire le déplacement et qui m'a demandé de le représenter. À l'occasion de cette prestigieuse cérémonie des remises des prix aux pays qui ont atteint les objectifs du millénaire et ceux de la sécurité alimentaire, à savoir éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Nous tenons à féliciter les pays qui nous ont rejoints dans cette voie. Comme vous le savez, le sommet mondial de l'alimentation qui a eu lieu dans cette enceinte en 1996 avait adopté une résolution visant à réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition. La République de Djibouti figurait parmi les pays qui ont atteint cet objectif, et ce à ce titre qu'un certificat avait été décerné lors de la 38e conférence de la FAO en juin 2013, ici au siège de la FAO à Rome. Pour atteindre cet objectif ambitieux dans un pays où la pluviométrie moyenne n'excède guère 150 mm par an, notre pays a fait un effort considérable pour atteindre cet objectif. Dès 1999, notre gouvernement a défini des stratégies adéquates, notamment à travers l'Initiative nationale pour le développement social, permettant de mettre en œuvre en priorité des programmes de développement rural dans les différentes régions du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, en 2009, sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, la feuille de route du gouvernement a réaffirmé davantage encore la priorité au développement du secteur primaire pour atteindre les objectifs fixés par le sommet mondial sur l'alimentation et la sécurité alimentaire, et ce, en s'appuyant sur trois axes principaux. Le premier axe vise la suppression des taxes d'importation sur les denrées alimentaires de base, ainsi que l'inexistence de tout impôt sur le revenu de la production agricole. Le deuxième axe étant un appui et des financements importants accordés au développement du secteur primaire en République de Djibouti, grâce à la mise à disposition des moyens de production et des facilités d'accès au microcrédit pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. C'est ainsi que des périmètres agricoles sont aménagés avec des systèmes de goutte à goutte permettant d'augmenter l'efficience de l'irrigation dans un pays aride tel que le nôtre. Par ailleurs, les arbustes fourragers tolérants à la sécheresse et à la salinité, tels que les prosopis, ont été judicieusement exploités dans différentes régions du pays. La troisième axe vise le renforcement des liens de coopération régionale dans les domaines agricoles. C'est ainsi que les pays frères voisins, tels que l'Éthiopie et le Soudan, ont gracieusement mis à notre disposition des milliers d'hectares de terres dans des zones fertiles, ce qui nous a permis d'augmenter la production agricole en matière de céréales et d'oléagineux. La combinaison de ces deux stratégies à l'échelle nationale et régionale nous a permis, sans conteste, d'atteindre les objectifs du sommet de l'alimentation subventionnée, et cela en 2013, soit 2 ans avant l'échéance initialement fixée. Excellences, Mesdames et Messieurs, la remise de ce prix à l'occasion de cette cérémonie nous encourage à poursuivre dans cette voie, tout en redoublant d'efforts, notamment à travers la vision Djibouti 2035, consolider les acquis et lutter contre l'insécurité alimentaire. Au moment où nous recevons cet encouragement, je tiens à rappeler la situation extrêmement vulnérable que nous traversons avec l'afflux massif des réfugiés en provenance du Yémen qui viennent s'ajouter aux dizaines de milliers de réfugiés des pays voisins tels que la Somalie, présents dans le pays depuis le premier jour de l'indépendance. Djibouti est le troisième pays au monde par rapport à sa population à accueillir autant de réfugiés. C'est dans cette perspective que nous lançons un appel à la communauté internationale pour nous appuyer dans ce sens. Et avant de conclure, au nom du président de la République, du peuple djiboutien et à mon nom personnel, permettez-moi de remercier nos partenaires au développement et en particulier à la FAO et M. José Grazinha da Silva, directeur général, pour leur contribution au développement du secteur primaire et réduire la pauvreté, la faim et l'insécurité alimentaire dans notre pays. J'ai saisi l'occasion du directeur général de la FAO pour sa brillante réélection au nom du président de la République de Djibouti pour vous féliciter, monsieur le directeur général, et assurer de notre soutien et participer dans l'accomplissement de sa mission au cours de ces 4 prochaines années. Merci.